Bienvenue dans le podcast La Voix des mots. Je suis Maouna Vigan, alias Maouna Poésie. J'écris et lis depuis que j'ai 6 ans. Fin 2020, sur un coup de tête, j'éditais seule mon premier livre intitulé « Au-delà de nos mots ». Le début d'une grande et folle aventure. Depuis, je construis ma vie d'autrice petit à petit et je partage mes découvertes dans les mondes de l'édition et de l'auto-édition. Cette année, je fais partie des lectrices de la maison d'édition Le Duc. Je te propose donc de suivre également cette aventure. Tu découvriras aussi mes échanges avec des écrivains ou avec des professionnels de l'édition ou de l'auto-édition pour t'aider toi aussi à construire un projet d'écriture qui te ressemble. Pour soutenir ce podcast, laisse une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu as des questions, envoie-moi un message sur Instagram ou par mail. Merci à toi pour ton temps et bonne écoute. Ça y est, c'est le premier épisode hors série de la saison 3 du podcast. Et pour la débuter, j'ai invité Laura, connue aussi sous le nom de Ressuscite mon sourire sur Instagram. Laura est une poétesse que j'ai rencontrée via les éditions Le Duc, parce qu'elle fait partie également des Lectrices 2023 pour cette maison d'édition. Donc on a commencé à échanger et puis par la suite j'ai découvert son travail et puis j'ai eu envie de la faire venir sur le podcast. Voilà. Donc vous allez pouvoir découvrir le parcours de Laura aujourd'hui. Je suis désolée pour la qualité du son. J'étais malade, j'avais une voix particulière et à cela s'ajoute en plus le fait que mes écouteurs commencent à lâcher. Promis, je vais investir dans un micro. Vous aurez encore un ou deux épisodes avec une qualité pas très optimale, malheureusement. Mais je fais tout pour que ça change. Voilà. J'espère que vous aurez assez de patience, en tout cas, pour écouter Laura. Lorsqu'elle parle, c'est très agréable. Il n'y a aucun problème de son. C'est juste ma voix à moi qui est un peu compliquée aujourd'hui. Merci pour votre patience et bonne écoute.
Bonsoir Laura, comment vas-tu ?
Bonsoir, ça va très bien, merci à toi de m'avoir invitée, c'est un réel plaisir.
Merci à toi d'avoir accepté, surtout que ça s'est fait un peu rapidement, c'est pas tout le monde qui est disponible comme ça, donc merci pour ça. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui n'ont pas cette chance encore, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bien sûr, donc moi c'est Laura Mailleux, connue sur Instagram sous le pseudo de Ressuscite mon sourire. Je suis sur Instagram depuis avril 2021, si je dis pas de bêtises, donc ça va bientôt faire 2 ans. Je suis étudiante en psychologie, nageuse, mais surtout écrivaine, c'est pour ça que je suis là. J'ai publié 2 livres qui s'intitulent « Mon cœur mis à nu » et « Mon âme mise à nu ».
Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que la natation t'a conduit à l'écriture ou pas du tout ? Comment est-ce que tu t'es tournée vers l'écriture ?
Non, c'est pas vraiment la natation, c'est plus l'amour, je dirais, hein. Voilà, premier cœur brisé, donc je me tourne vers les mots et ça fait du bien, donc je continue, quoi, pendant des années et je m'arrête jamais. Mais c'est vrai que la natation peut être une thématique sur laquelle j'aime écrire aussi, oui.
D'accord. Et donc tu as commencé directement après cette histoire douloureuse, directement par la poésie ou c'était simplement coucher des mots sur le papier, ça laissait sortir ce qui devait sortir.
Ouais, c'était plus ça, vraiment une catharsis libre. C'était des textes en prose, voilà, banal.
Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu, avec le temps, ça remonte à quand ? C'est quoi ? C'était il y a 5-10 ans ? Parce que je sais que les recueils sont sortis il y a pas très longtemps, donc en 2021 et en 2022, si je dis pas de bêtises. Mais quand est-ce que tu t'es tournée vers l'écriture ? T'as une date un peu précise ou pas du tout ?
J'étais en 6e. Donc, ah oui. La date, je ne l'ai pas, mais vers 11-12 ans, quoi.
Ok. Donc, effectivement, assez tôt.
Oui, oui, oui.
Et depuis tout ce temps, est-ce que tu as commencé à développer un rapport à l'écriture un peu particulier ? Parce que je pose la question, parce que pour certaines personnes, c'est effectivement un peu libérer les émotions. Pour d'autres, ça va être l'écriture de l'imaginaire, un moyen de s'évader. Pour d'autres encore, ça va être la revendication. Pour toi, aujourd'hui, l'écriture, qu'est-ce que c'est ?
Bah, en premier lieu, et ça le sera toujours, c'est vraiment un moyen de me défouler, de laisser sortir des choses que je peux pas dire à l'oral, parce que ça a toujours été compliqué pour moi de parler, en fait. Donc écrire, c'est beaucoup plus simple. Mais oui, il y a aussi ce côté revendication, parler de choses qui me tiennent à cœur et de handicap particulièrement. Donc voilà, faire passer des messages aussi.
Ouais. Donc un peu de revendication, un peu beaucoup quand même.
Oui.
Et comment dire, est-ce que tu as développé avec les années une routine d'écriture? Est-ce que tu écris de manière spontanée quand justement il y a trop d'émotions ou des choses à faire sortir? Ou est-ce que tu te crées des sessions d'écriture?
Session d'écriture, c'est de plus en plus fréquent, mais en fait, je peux écrire à n'importe quel moment de la journée, en pleine nuit, pendant une insomnie sur mon téléphone, dans les transports, le matin en prenant mon petit-déj. Enfin, j'écris vraiment pour le plaisir, donc le côté routine, je l'ai pas vraiment.
Je comprends. Je crois qu'on est beaucoup à faire ça aussi quand ça tombe dessus. Il faut attraper quelque chose pour que ça sorte avant qu'on l'oublie. Combien de fois j'avais envie d'écrire des choses? Bon, parfois t'es quand même dans des situations parfois particulières. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas, je suis dans la rue, je vois un truc, je parle à quelqu'un et tu coupes ta phrase et tu dis attends, il faut que j'écrive. Ça fait un peu bizarre quand les gens n'ont pas l'habitude. T'sais.
Oui, c'est sûr, ça peut surprendre.
Ouais, mais bon, je dis que les proches au bout d'un moment ils doivent plus s'étonner des lubies un peu et des bizarreries des écrivains. On est un peu connu pour ça.
Oui.
Est-ce que tu as un support d'écriture particulier ou pas du tout? Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que souvent, c'est ton téléphone dans la nuit. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te facilitent l'écriture ou est-ce que parfois, ça arrive qu'on ait des supports d'écriture qu'on préfère en fonction de ce qu'on écrit? C'est par exemple, je sais pas, on est plus dans l'émotion vive sur l'instant. Moi, ça m'est arrivé parfois d'être plus dans le rapport au papier. Là où d'autres moments où je suis sur un truc un peu plus formaté, un peu plus cadré, je vais effectivement sortir l'ordinateur ou le téléphone.
Moi, j'écris très peu sur papier, tu vois, ça me prend trop de temps, en fait. J'ai l'impression que mes idées vont partir le temps que j'écrive sur papier, donc oui, beaucoup sur les notes de mon téléphone et sinon sur un document Word classique.
Moi, je t'avouerais que c'est la peur après de devoir retaper sur l'ordi qui fait que le papier, je l'utilise moins, mais bon, je sais pas, parfois j'ai le sentiment que le fait de sentir le papier ou de le frapper, entre guillemets, avec la plume, que ça contribue un peu à sortir les choses. Mais bon, c'est peut-être un peu alambiqué comme manière de faire, mais après, le fait ouais, de devoir les retaper à l'ordinateur me décourage assez vite, donc on n'y reste pas très longtemps. Est-ce que tu as commencé à écrire directement sous ton pseudonyme? Parce que donc sur Instagram, tu es plutôt connue sur le nom Ressuscite mon sourire. Est-ce que dès que tu as ouvert un compte sur Instagram, tu es passée par ce pseudonyme ou c'est venu après ou comment ça s'est passé?
Alors sur Instagram, j'ai toujours été connue sous le nom de Ressuscite mon sourire, oui. J'ai pas vraiment réfléchi, je me suis dit allez je prends ça et je pensais pas que j'allais rester sur les réseaux aussi longtemps et que ce pseudo allait me suivre en fait. Donc c'était plus un coup de tête non réfléchi qu'autre chose, mais bon maintenant je le garde, je m'y suis faite. Mmh. Et sinon avant j'étais sur Facebook beaucoup, j'ai eu beaucoup de pages l'envol de mes mots, douleur passagère et ma dernière page s'appelait Son sourire m'a ressuscité. Voilà l'explication de Ressuscite mon sourire.
Ok. Et est-ce qu'on peut te demander quelle est la personne qui est dans le sourire t'a ressuscité ou c'est très
personnel? Oh oui, oui. Non, pas de souci. À la base, je pensais que c'était un coup de foudre, on va dire, mais c'était plus quelqu'un que j'admirais beaucoup. Un nageur que je connaissais et en fait, à chaque fois que je le voyais, vraiment, il m'insufflait la force de me battre, en fait. Donc, ça me semblait évident.
Je comprends. Le nom m'échappe, mais si c'est peut-être que tu en as parlé dans ton premier livre, je crois avoir un passage à ce sujet. Ok, donc c'est bien cette personne-là. Ça marche. est-ce qu'aujourd'hui, tu écris justement sur d'autres supports ou c'est que Instagram maintenant? Parce qu'il y a des personnes qui écrivent sur Wattpad aussi. Est-ce que toi, tu t'y es essayé ou pas du tout?
J'étais sur Wattpad il y a quelques années, mais non, j'y suis plus. Là, vraiment, Instagram, ça me prend beaucoup de temps de créer les posts, créer les stories, essayer d'être active un minimum sur le compte des autres. Donc, je préfère avoir un seul réseau et être à 100% que m'éparpiller.
Ouais, je comprends. Après, t'as une belle communauté sur Instagram, donc ça donne envie, effectivement, de continuer à échanger avec tout ce petit monde. C'est d'ailleurs grâce à Instagram aussi que j'ai découvert ton compte. Que je m'étonne parce qu'effectivement il est grand, je pensais que j'aurais vu passer des choses, mais on remercie les éditions Levue pour ça, pour cette rencontre.
Exactement.
Est-ce que tu t'es créé une communauté un peu aussi d'écrivains? Parce que je sais qu'il y a pas mal d'écrivaines, surtout les écrivains, j'en suis beaucoup moins maintenant que j'y pense, mais j'ai vu pas mal d'écrivaines qui avaient aussi un peu une sorte de groupe pour échanger, pour se soutenir. Est-ce que toi aussi tu as un peu l'équivalent?
Non, du tout. Après, j'essaye d'être la plus disponible possible en DM. Je discute avec beaucoup d'auteurs ou des gens qui n'écrivent pas, mais non, j'ai pas ça.
ça te, moi je sais que je me suis posé la question si ça me manquait pas un peu, tu sais, dans les moments un peu difficiles où parce que bon, je fais de l'auto-édition aussi comme toi, et parfois ça m'est arrivé de me dire mais pourquoi est-ce que je me donne tant de mal. Et c'est vrai que de partager ça avec d'autres personnes qui sont passées par là, je me dis que ça pourrait aussi un peu aider à garder la tête haute et à se réussir à s'accrocher.
Donc, ouais, c'est vrai.
À voir si dans le temps, avec l'occasion, si t'as l'occasion d'avoir ça. Ou même si on continue à échanger, justement, et qu'on partage nos galères, avec plaisir.
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'il y a des personnes qui te demandent, à la lecture de tes ouvrages, si ce que tu partages, c'est parfois un peu trop? Parce que je sais qu'il y a des contes qui ont des thématiques assez dures parfois, qui parlent effectivement de choses autour de l'anxiété, autour de peines, d'émotions assez vives et assez violentes. Et parfois, t'as des personnes qui les suivent et qui se plaignent que ce soit trop. Ou à l'inverse, tu as des personnes, des contes sur lesquels on partage beaucoup plus de choses positives, si je dirais, où ça parle d'amour. Et le jour où la personne a la maladresse ou l'idée saugrenue de parler d'autres choses d'un peu plus personnelles ou un peu moins sympa que d'habitude, pareil, tu peux avoir un déchaînement de commentaires ou autre. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Ou comment est-ce que ta communauté se comporte avec toi?
Alors, c'est très rare. Je dirais que j'ai une communauté assez bienveillante, malgré qu'elle soit très grande. Donc, plus elle est grande, plus on prend le risque, plus on s'expose, en fait. Mais oui, ça m'est déjà arrivé quelquefois, quand une publication perce un peu plus qu'une autre, on va dire, que les gens viennent en commentaire me dire mais c'est bon, arrête de te plaindre, il y a pire ailleurs, alors que... Ben en fait, ils lisent juste allez, une quinzaine de mots de ta vie et ils pensent tout connaître, quoi. Ou à l'inverse, quand je mettais des publications pleines d'espoir, on me disait « mais redescends sur Terre, on n'est pas dans un monde idéal ». Donc j'étais là, bah en fait, quand j'écris des trucs tristes, on me dit que ça va pas. Et quand je parle d'espoir, on me dit que ça va pas non plus. Donc bon, bah moi je fais ce que je veux et tant pis pour vous, quoi. Enfin...
Ouais. Au final, c'est peut-être ça, effectivement, qu'on doit garder en ligne de mire. C'est que on écrit pour soi avant tout, c'est que ça reste quand même quelque chose d'égoïste, hein, parce que même si on a envie d'être lu et de partager des émotions, avant tout on va pas se mentir, quand on écrit déjà pour soi, pour se libérer. Et si un jour on est particulièrement plein d'espoir pour l'avenir de cette planète, contrairement à un autre jour où on se demande où est-ce que si on court pas à notre perte, j'ai envie de dire c'est aussi ça de devoir respecter un peu la parole de chacun. Mais bon, c'est un peu comme un livre, hein, quand tu le sors, t'appartiens plus, et t'as toujours des critiques positives et des critiques négatives de personnes qui remettent en question tout le contenu ou d'autres qui l'adulent. Donc, c'est aussi ça, le métier d'écrivain, c'est avoir le doigt assez large pour tout ça.
Ouais, c'est ça.
Autre question, pourquoi est-ce que tu t'es tournée vers l'auto-édition et pas l'édition?
Alors, en fait, Mon cœur mis à nu, ça fait très longtemps qu'il est écrit, donc mon premier livre. Et j'avais essayé il y a quelques années, je saurais plus dire exactement quand, on va dire il y a 3-4 ans peut-être, de l'envoyer à quelques maisons d'édition, et ça avait été que des refus ou des non-réponses. Et en fait, quand je suis arrivée sur Instagram, j'ai découvert l'auto-édition, notamment grâce à Pauline, Tosca, enfin voilà. Et je me suis dit, bah... j'ai pas envie de refaire tout le processus. Certes, j'ai réécrit, mon livre est mieux qu'il y a 3 ans, mais j'ai pas envie d'attendre 6 mois pour le sortir. Là, je me sens prête, je veux le sortir maintenant et pas attendre qu'on me dise oui, en fait. Je voulais vraiment avoir ce contrôle-là de sortir maintenant. J'en ai envie maintenant et je le fais.
Ouais. Et comment ça s'est passé?
Eh ben, écoute, très bien. Donc, au niveau de la temporalité, j'ai tout réécrit en octobre, fin octobre. Et j'ai réussi à le sortir le 14 décembre. Donc ça en fait était très rapide, je trouve. Même la couverture, c'est ma belle-sœur qui l'a faite. On l'a faite assez rapidement. Et en fait, je me suis pas posé de questions, j'ai foncé. Donc je me suis pas mis de stress, je me suis pas posé de questions. Qu'est-ce qui va se passer, combien je vais en vendre. J'étais pas du tout là-dedans, en fait. J'étais surtout dans le... bah, j'ai ça dans mon ordinateur, je veux plus le garder pour moi et on y va, quoi.
Ouais, je vois l'idée. Ça m'a fait ça aussi un peu pour mon premier, parce que moi j'ai tout fait en un mois, où je me suis réveillée un matin, je me suis réveillée un matin. Disons que j'ai un ami qui m'a dit, ça serait pas mal d'en faire un livre de ce que tu postes à droite à gauche comme ça. Et je me suis dit, ouais, on est en octobre, vas-y, on sort ça pour les fêtes. Ok! J'aurais jamais pu te dire de faire ça, parce que du coup c'est moi qui vais devoir le faire avec toi. Mais c'est clair que quand c'est comme ça, en plus ça enlève un peu l'appréhension. Quand tu réfléchis pas trop, quand tu te dis allez, au pire du pire, il se passe quoi? il y a juste mon pote qui l'achète. Et au pire, ça aura fait une belle aventure. Donc, je comprends un peu ce que tu t'es dit. Est-ce que tu as quand même fait un peu un planning en termes de communication ou de plan, ou tu as juste annoncé à tes followers, voilà, le livre sort dans telle date, préparez-vous.
Non, même pas, j'ai fait pire, je l'ai annoncé le jour de la sortie. Genre, sorti nulle part, j'ai dit, bon, bah voilà, j'ai écrit un livre, au revoir.
Pas mal, sans avoir rien fait en story du tout.
Non, j'en avais pas du tout parlé avant, ni rien. Et puis en plus, à l'époque, j'avais 1000 abonnés peut-être. C'était pas du tout la communauté que j'avais maintenant, que j'ai maintenant. Donc,
Ah, ça fait une grosse croissance, parce que là, tu as plus de 200 000 abonnés, si je dis pas de bêtises.
100 000.
100 000. Ah ouais, quand même, en 2 ans, c'est waouh.
Ouais, c'est allé très très vite, hein. Des fois on comprend pas l'algorithme.
Ah ouais, non, mais ça j'ai arrêté, hein. J'ai fait une pause forcée de 3-4 mois sur Insta, sur toute ma vie, et j'ai décidé d'arrêter d'essayer de comprendre quelque chose que je maîtrise pas.
Ah oui, c'est clair.
Mais en tout cas, chapeau, effectivement, ça fait pas mal de gens qui te suivent, et donc c'est grâce à ce livre au final, si je comprends bien aussi, que bah, cette communauté a grandi, grossi et continue aujourd'hui de partager et de suivre ce que tu fais.
Honnêtement, j'ai pas la réponse, hein. je suis pas sûre que mes livres y soient pour quelque chose. Enfin, j'en sais rien. En mai dernier, j'ai fait 2 posts qui avaient vraiment percé, et c'est à partir de là que ça a pas arrêté d'augmenter, en fait.
Comme quoi.
Voilà.
Aux auditeurs qui nous écoutent, continuez à poster. Un jour, peut-être, l'algorithme ne vous aura plus dans le radar. Vous serez dans un coin perdu, un angle où il ne peut pas vous voir, et vous ferez votre petit bonhomme de chemin.
C'est ça.
Est-ce que tu as rencontré des difficultés lors de ton processus d'auto-édition?
Je crois pas. Mis à part le gros stress du deuxième, mais c'est pas vraiment des difficultés, c'est... Voilà, le premier, comme je disais, j'avais pas du tout d'appréhension. Et le deuxième, bah vraiment, j'avais la boule au ventre, quoi. Ouais. La nuit, le jour, tout le temps, je me suis dit, mais ça se trouve, le premier, c'était un coup de chance, et le deuxième, personne va l'aimer, quoi. Donc, ouais, c'était plutôt ça.
Et comment tu as fait pour gérer cette partie-là?
J'ai pas géré. J'ai continué sur ma route. Je me suis dit, bon, j'ai pas commencé pour rien, je vais jusqu'au bout et on verra, quoi.
Et le deuxième aussi, tu l'as annoncé le jour même de sa sortie, ou tu as fait un peu plus de préparation pour celui-là?
Non, j'ai plus préparé le terrain, parce que justement, je pense que j'étais angoissée, donc j'avais aussi besoin d'en parler. J'en parlais beaucoup en story à mes proches, et puis j'ai fait une période de précommande, un mois et demi avant environ. Donc voilà, c'était aussi pour me rassurer de ce côté-là.
D'accord. Et moi, je sais que j'ai commandé ton premier livre sur Amazon, non pas moi. Mais comment, sur quel type de réseau est-ce qu'ils sont disponibles aujourd'hui? Tu les as sélectionnés comment?
Alors moi, je suis passée par Book on Demand, niveau auto-édition. Et donc du coup, ils sont disponibles un peu partout. Donc Amazon, là où tu l'as acheté, Fnac, Cultura, ils peuvent être commandés en librairie ou directement par moi. J'ai aussi un site internet, voilà.
Ok. Et tu avais ton site internet avant de sortir tes livres, ou tu l'as fait après? Je pose toutes ces questions parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui se demandent aussi comment se lancer sur certaines étapes, est-ce que c'est important ou pas d'utiliser un site internet. Par exemple, Pauline, que tu citais tout à l'heure, elle a pas de site internet. Je sais qu'elle vend ses livres quand ils sont dédicacés sur Vinted, alors que d'autres ont un site internet. Ça s'est goupillé comment?
Alors moi, j'ai créé mon site internet en août dernier, justement pour préparer la sortie du deuxième. Parce que voilà, je voulais faire cette période de précommande et je voyais pas trop comment la faire sans site internet, en fait. Ouais, voilà.
Je crois que Tosca, elle a fait ça via KissKissBankBank. Mais effectivement,
oui.
L'inconvénient de ça, c'est qu'effectivement, tu lui laisses une petite commission quand même à KissKissBankBank au passage, c'est sûr. Mais après, je pense que, enfin, c'est ce que je dis souvent, ça dépend vraiment du projet que tu as avec ton livre, de combien de frais aussi d'argent tu souhaites mettre dedans ou pas, parce qu'aujourd'hui, si on le souhaite, on peut très bien sortir un livre sans mettre un centime. Si on fait tout seul, de A à Z, qu'on ne pose personne pour le relire, pour corriger, quoi ou pièce, et qu'on met tout sur Amazon, on appuie sur un bouton et on ne dépose pas un seul centime pour vendre un livre. C'est la magie de notre époque. Mais en fonction de ce qu'on veut faire, si effectivement on veut faire des précommandes comme toi, si on veut avoir un espace aussi qui nous est dédié et sur lequel peut-être partager d'autres choses, et permettre aussi aux gens qui nous suivent d'intégrer un peu plus notre vie d'auteur. C'est vrai qu'en plus des réseaux, ça peut être intéressant d'avoir un site internet. Donc je comprends aussi ton choix. J'en ai un d'ailleurs, donc je ne vais pas te jeter la pierre.
Oui, je trouve que c'est un bon moyen aussi. Bah, toi, tu fais des newsletters. Moi, j'ai essayé d'en faire deux ou trois. C'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à investir, mais voilà, il y a plein de possibilités grâce au site internet. Donc, je pense que voilà, ça peut être bien aussi.
J'ai lu le premier ouvrage. Bravo. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ça, au sens où, comment dire. C'est vrai que sur certains livres, quand par exemple c'est de la fantaisie ou autre, on sait un peu quel est le genre, comment ça va se dérouler. Pour de la poésie, je m'attendais effectivement à trouver plutôt des poèmes courts ou plus ou moins longs sur différentes pages, mais j'avais volontairement fait exprès de pas regarder l'intérieur. Parfois, je ne sais pas pourquoi il y a un livre que j'achète, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dedans tant que le livre n'est pas dans mes mains ou de me renseigner. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait donc une alternance de prose et de poésie en vers. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir les deux parce que ça montre un style différent à chaque fois. Ça permet d'avoir une approche de ta plume aussi qui est différente. Et ça m'a rappelé d'une certaine manière parfois ce que j'avais pu faire avec mon propre livre. Au sens où tes poèmes, parfois, c'est comme si c'était une autre voix qui était un peu en écho avec ce que tu décris dans la partie en prose. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cette voix qui vient parfois sublimer des choses ou accentuer certains éléments que tu partages. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette alternance entre les deux.
Merci beaucoup.
Ça t'est venu comment de le présenter comme ça? C'était pareil, quelque chose que auquel tu n'as pas réfléchi ou tu t'es dit que ce serait intéressant d'avoir un peu de mêler les deux styles?
Alors non, ça c'était plutôt réfléchi par contre. Bah comme je le disais, oui, ce livre, ça fait longtemps qu'il était écrit, mais c'était vraiment que de la prose à l'époque. Et à chaque fois, je me disais, ah, il manque quelque chose quand même, tu vois, genre. Qu'est-ce qui me manque pour que je le sorte enfin? Et puis, je suis arrivée sur Instagram, je me suis mise à écrire beaucoup de poésie. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas insérer un poème entre chaque chapitre? À chaque fois, je relisais le chapitre, je me dis, bah, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de ce chapitre? Qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Et je le retranscrivais en poème. Donc vraiment, ce que tu dis, bah, ça fait vraiment écho, au processus d'écriture, en fait.
Ok, donc si on me faisait une fiche de lecture et que j'étais à cours de français, j'aurais une bonne note parce que j'ai compris ce que l'autrice voulait transmettre. Non,
Bravo.
mais ça, c'est super important parce que tu vois, ça veut dire que ton message, au final, il est compris. C'est effectivement moi qui l'ai lu sans avoir échangé avec toi et je te fais ce retour-là, c'est qu'effectivement ce que tu voulais transmettre, bah ça a été compris. Donc bravo, ça veut dire que ça a été super bien agencé, c'est top.
Oui, c'est super.
Il y a autre chose qui m'a aussi impressionnée dans ton ouvrage, c'est que, alors moi personnellement, j'ai plus le temps passe, moins j'ai de souvenirs des années précédentes de ma vie, de l'enfance, de la préadolescence, même sans vouloir caricaturer, de ce qui s'est passé il y a encore 3 ou 4 ans, tu vois. Je ne sais pas comment ma mémoire fonctionne, mais plus le temps passe, plus j'ai le sentiment qu'elle a fait elle élude des passages de ma vie qu'elle considère visiblement pas comme étant importants. Ce qui m'embête un peu, parce que j'ai bien intention un jour d'écrire mes mémoires, et ça risque d'être compliqué si j'arrive à 70 ans et que je me rappelle que de ce qui s'est passé les 2 dernières années, mais bon, c'est un autre sujet. Comment toi tu as fait pour parler de moments enfin, il y en a certains, tu es encore bébé dans ce que tu décris, c'est vraiment des images dont tu te rappelles, ou c'est un mélange peut-être de choses que ton entourage t'a dit?
Alors, il y a certaines images qui sont très nettes, notamment un moment que je raconte de ma naissance. Mais sinon, oui, c'est beaucoup beaucoup du réassemblage, j'ai envie de dire, de choses que j'ai entendues, de choses que j'imagine, de je sais pas, oui, la naissance, je l'ai beaucoup racontée du point de vue de mes parents parce que voilà, c'est ce que eux ont pu me dire. Moi je me rappelle plus à quel point je pleurais ou pas quoi, enfin évidemment. Mais voilà, c'est creuser un peu partout là où on peut pêcher les infos et assembler tout ça.
Ouais, bah c'est vraiment très bien décrit. Ça permet aussi de retranscrire l'intensité de ce qui s'est passé et d'une certaine manière d'être là en tant que spectateur. Parce qu'il y a des choses, des thématiques qui sont effectivement assez fortes dans ton livre, puisque tu parles de ton handicap. Et ça permet aux personnes qui soit n'en ont pas ou soit... En fait, c'est même pas une question au final d'en avoir ou pas, c'est simplement une question de se sentir connecté par ce que tu vis et de mieux le comprendre aussi. Et d'avoir la capacité à nouveau de se dire bah, la différence, c'est aussi ce qui nous sublime et c'est ce qui fait que chaque personne est authentique et unique. Et d'avoir peut-être aussi un peu plus humble par rapport à nos vies. Merci d'ailleurs pour ça, parce que ça, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai l'impression d'y avoir déposé quelque chose en le lisant et d'être parti avec quelque chose de plus gros. Donc, je trouve que ton livre mérite à être lu.
Merci, ça me fait.
Quelle différence est-ce qu'il y a entre tes deux ouvrages? Puisque le premier, c'est Mon cœur mis à nu. Le second, c'est Mon âme mis à nu. Quelle est la différence entre les deux?
Alors, la différence, c'est vraiment dans le format, je dirais. Donc, le premier, comme tu disais, c'est une alternance entre prose et poésie. Et le deuxième, c'est que de la poésie. Donc, les thématiques vont être à peu près les mêmes, même si je parle peut-être un peu plus d'amour dans le deuxième. Mais voilà, c'est vraiment le format qui va changer.
Ok. Et d'un lecteur, plutôt auditeur, si qui nous écoutez, je vous invite aussi à lire le second, au passage. Je pense que vous aimerez autant que moi j'ai pu aimer le premier. Est-ce que tu as pensé à l'édition depuis le temps? Ou c'est toujours quelque chose qui t'intéresse pas, ou peut-être plus tard?
Si, forcément, en tant qu'auteur, on pense édition, enfin, tout le temps. Mais à voir pour quel projet. Voilà, là, je suis en train d'écrire un troisième livre. Je vais peut-être l'envoyer à une maison en particulier. Sinon, après, j'ai un gros projet en tête pour la fin de l'année, parce que là, je suis encore en études et je peux pas m'y consacrer pleinement. Et c'est quelque chose... voilà, c'est vraiment un énorme projet dans lequel je veux me lancer. Donc, faut que je m'y dédie à 100%. Donc, peut-être pour celui-là, oui, j'aimerais vraiment qu'il soit en maison, parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc, on verra.
Tu peux nous dire de quoi ça parlera ou quelle forme ça aura, ou pas du tout?
Le quatrième, du coup?
Ouais.
En fait, j'aimerais faire un livre qui interrogerait énormément de personnes en situation de handicap et faire un peu comme un dictionnaire de termes, de sentiments, de... Enfin, c'est encore pas très clair dans ma tête, ouais. mais je sais quand même quoi.
Ça me fait penser ce que tu dis au livre de Camille Ardemo, qui effectivement, qu'elle a fait en mélangeant des mots pour essayer de décrire des émotions. Et le résultat était pas mal du tout, donc si tu te lances dans un projet similaire autour du handicap, ça risque effectivement d'envoyer quelques flèches en plein cœur des personnes qui le liront. Et encore une fois, je pense que c'est sur des thématiques qu'il faut qu'on lise, même si on n'est pas concerné directement par le handicap en réalité, parce que les douleurs restent les mêmes. Enfin, on a tous une manière de vivre sa douleur et son empathie qui sont similaires, en tout cas qui font que c'est ce qui nous rend un peu plus humains. Donc, je pense que c'est aussi un ouvrage qu'il faudra lire dans tous les cas. Encore une fois, qu'on soit concerné ou non, ça nous permet d'avoir un regard sur le monde un peu plus humble. Donc, bravo et bon courage d'avance pour ce
qui est mieux. Ça va prendre du temps, mais j'ai aussi envie que ça soit une aventure humaine. Ouais. C'est pour ça que je veux m'y consacrer à plein temps et on verra sous quel format, on verra combien de temps ça me prendra, mais je veux le faire.
Et tes études en psychologie, parce que si je dis pas de bêtises, tu fais des études en psychologie, c'est ça? Tu penses aussi que ça t'aidera à écrire ce livre? Enfin, j'imagine que ça pourra, et en tout cas y contribuer peut-être, de faciliter la traduction de certaines émotions ou la compréhension du mal-être des autres. J'ai peut-être des raccourcis un peu faciles, mais bon.
Non, pas du tout. Je pense que mes études en psychologie ont aussi fait émerger cette envie de projet, en fait. Donc, vraiment dans le lien à l'autre, dans l'émotion, dans les douleurs. Enfin, oui, je pense que ça a vraiment un lien.
Est-ce que le fait d'être autrice aujourd'hui t'a ouvert des portes ou t'a permis de faire de belles rencontres ou de participer à des différents projets qui ne seraient pas arrivés sans ça?
Alors oui, il y en a beaucoup, tellement que là je ne sais pas lequel mentionner, mais oui, depuis la sortie de mes livres par exemple, je suis beaucoup sollicitée pour faire des sensibilisations sur le handicap ou des salons du livre ou... Enfin, c'est des choses que j'aurais pas du tout pensé faire avant, déjà parce que j'aurais pas osé, je me serais pas sentie légitime. Mais voilà, mes livres sont un peu une sorte de médiation, en fait, à des occasions comme celle-ci, à dire, bah, mon histoire est là, j'en ai parlé, voilà, maintenant, venez discuter du handicap, de votre manière de voir ça aussi, enfin ouais. Voilà.
Ça a permis de mettre de la lumière sur une thématique qui, parfois, en manque un peu. Parce que c'est vrai, comme tu le dis, on s'y intéresse pas quand ça nous arrange, mais un peu presque quand même. Disons que c'est pas quelque chose vers lequel on se tourne naturellement et spontanément, alors que ça devrait aussi être le cas. Donc je comprends que tu aies voulu aussi pousser ça à travers tout ce que tu fais et à travers ton travail. C'est effectivement normal, presque, qu'on te demande ton avis aujourd'hui et qu'on te mette en avant, qu'il puisse donner de la voix sur cette thématique. Donc, c'est cool.
Oui, bah ça me tient vraiment à cœur. Je peux aller dans les écoles, faire des sensibilisations peut-être à l'avenir dans des entreprises. Enfin, voilà, j'ai une voix, il faut la faire entendre un peu comme tout le monde, hein. Chacun a des thématiques sur lesquelles il est assez spécialisé, on va dire. Ouais. Mais voilà, ma voix, maintenant, je veux la faire entendre.
On a hâte de l'entendre. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière d'autrice qui a été plus dur qu'un autre?
Bah en fait le moment où j'écrivais pas, tout simplement. Il y a un moment où bah pendant le au tout début du Covid, ouais, j'allais vraiment pas bien et en fait j'avais arrêté d'écrire depuis quelque temps parce que j'avais tout simplement plus le temps et aussi plus l'inspiration. Et en fait ce moment-là, il a été terrible. À partir du moment où j'ai repris la plume, on va dire, sans mauvais jeu de mots, ça a été beaucoup mieux en fait. Donc voilà, les difficultés de la vie d'autrice, c'est juste quand on n'arrive pas à mettre de mots.
Ouais, j'ai connu ça aussi. C'est particulièrement désagréable. Surtout quand c'est... Parce qu'il y a le fait de pas le faire quand... Parce que la vie t'entraîne dans plein de choses. Parce que comme toi, j'écris depuis petit, depuis j'ai 6 ans, mais il y a un moment dans ma vie où j'ai arrêté d'écrire parce que bah, t'as plus le temps ou t'as plein d'autres projets. Et puis, pour être transparente, moi, je m'étais dit que j'écrirais un livre à la retraite pour te dire à quel point je me dis que j'ai le temps. Voilà. Et il y a d'autres moments où t'en as besoin, t'en as envie, mais ça vient plus. Je sais pas si toi ça te l'a fait aussi, peut-être un moment où t'as l'impression que tu écris par obligation, notamment par rapport aux algorithmes entre autres, mais aussi parce que le sentiment peut-être que si tu n'écris plus, tu vas décevoir des gens ou qu'on t'attend, qu'on a besoin de tes textes, etc. Je sais pas si toi ça te l'a fait ou pas du tout.
Oui, oui, si, clairement, je pense qu'on passe tous par là à un moment ou un autre. Voilà, moi, sur mon compte, j'essaye de poster tous les 2 jours. Il y a des moments, je me dis, mince, j'ai rien à poster, en fait. J'ai rien écrit. Donc, je me force à publier une petite phrase par-ci, par-là. Enfin, ouais, il y a toujours un peu ça, quand même. Hein.
Ouais. Là où, à l'époque de Molière, il n'y avait pas ce genre de contraintes. Sauf s'ils étaient engagés pour écrire dans des revues, mis à part ça. Mais sinon, oui, effectivement, les réseaux nous poussent un peu à... Bah, c'est pour ça que je m'étais mise sur Instagram, en réalité. Parce que pendant le confinement, j'avais envie de revenir à l'écriture. Mais je savais pertinemment que si j'avais pas une sorte de contrainte derrière, de production, j'allais à nouveau le faire de manière sporadique, comme ça. Et je m'étais dit qu'effectivement, l'algorithme forçant à poster quelque chose tous les 2-3 jours pour le nourrir, ça devait être l'outil, parfait pour mettre en place une certaine routine d'écriture. Finalement, ça finit par se retourner contre soi quand on finit par donner trop d'importance à la chose. C'est là où il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux. Donc, je sais pas comment toi tu t'y prends, si t'écris des textes à l'avance, comme ça t'es tranquille, ou si tous les jours tu te mets devant ton ordinateur pour écrire.
Honnêtement, ça dépend des périodes. Il y a un moment où j'avais toujours 10 publications d'avance, du coup j'étais assez sereine vis-à-vis de ça. En ce moment, j'avoue que j'ai pas le temps de prévoir autant de publications d'avance, donc c'est un peu au jour le jour. Là, je sais que je dois publier demain un texte, je sais pas de quoi il parlera, quoi.
Ça va être la surprise.
Voilà.
C'est vrai que moi, ça m'arrive même parfois d'en avoir en avance, et il y a certaines fois, t'as pas envie de les publier, enfin pas cela, il y a un autre sujet qui vient, et c'est ça que tu sors. On sait pas pourquoi, mais c'était ça qui devait sortir ce jour-là. Mais je vois que tu hoches la tête, donc ça me rassure, je suis pas la seule à envoyer bouler mon calendrier comme ça de temps en temps.
Ah oui, non, bah le feeling, hein, c'est le plus important aussi. Hein.
C'est ça. Est-ce que tu as une boisson ou quelque chose que tu manges chaque fois que tu écris? Est-ce que tu as des petites habitudes ou pas du tout?
Chocolat chaud, hein.
Chocolat chaud, ok, c'est le chocolat chaud. On m'a dit une fois, je sais plus c'était qui que j'avais interviewé, que c'était team vin rouge ou vin blanc. Ah, c'était idiotique. Vin blanc. Elle, c'était type vin blanc. Du coup, je lui disais, bah, j'espère que t'écris le soir, parce que le matin, à 6 ou 7 heures, ça doit piquer quand même le petit verre de vin blanc.
Et tu m'étonnes.
Est-ce que, tu pourrais nous lire un extrait d'un de tes 2 livres, si tu l'as sous la main?
Non, je l'ai pas sous la main, mais il est derrière. Si tu me laisses 2 secondes.
Vas-y.
Alors, tu préfères un extrait du premier ou du deuxième? Je te laisse choisir.
Quelle lourde responsabilité. on va dire le deuxième. Comme ça, comme j'ai lu le premier, ça me donnera un aperçu du second.
Ok. Alors, est-ce que je fais au pif?
Vas-y. Ou si tu sais un passage particulier que tu adores partager, c'est toi plaisir.
Non, ça dépend des fois. Ça dépend du feeling. Allez, pour un peu d'espoir. Je ne veux plus être le brouillard, transparent et maussade. Je veux être le soleil, chaleureux et rayonnant. Je ne veux plus être l'obscurité, glaçante et effrayante. Je veux être l'arc-en-ciel, éblouissant et surprenant. Voilà.
Je laisse reposer ça dans les oreilles des auditeurs. Vous avez le droit d'applaudir avec vos deux petits doigts comme ça. C'est ce qu'on fait en poésie. Sauf quand on s'appelle Ruth Picor et qu'on dit en introduction de son spectacle qu'on a le droit de taper des pieds et de taper dans les mains. Je sais pas si t'as eu la chance de la voir quand elle est passée à Paris, mais c'est assez extraordinaire.
Non, tu y allais toi du coup?
Ouais, j'ai pu la voir, et ce qui était marrant, c'est que Pauline et Tosca étaient aussi. Aux auditeurs qui se demandent qui sont Pauline et Tosca, vous avez qu'à aller écouter les autres épisodes précédents, vous le saurez. Et c'est marrant parce que je savais pas que vous me connaissiez, mais bon, en même temps tu me diras, j'ai l'impression que le monde de l'écriture sur Instagram n'est pas si grand que ça, donc ça ne m'étonne plus maintenant que j'y pense. Mais oui, elles étaient là aussi, et il y avait des places libres juste à côté d'elles, donc j'ai pu me rapprocher, et on était là toutes les trois à regarder les photos avec des étoiles dans les yeux. C'était assez sympa comme spectacle.
Tu m'étonnes.
Et en parlant de spectacle, de rêve et d'accomplissement, est-ce que toi tu en as en particulier pour ta carrière d'autrice? Ça peut paraître bête, mais figure-toi qu'il y a des gens avec qui j'ai discuté qui me disent non, juste je publie comme ça me va. D'autres qui répondent j'ai envie d'être la prochaine Ruth Picor. Enfin voilà, donc maintenant je pose la question. Tu as un rêve en particulier?
Je sais pas. En fait, juste continuer. Continuer d'écrire, continuer de sortir des livres et que ça puisse toucher un ou mille lecteurs, bah je veux continuer. Juste ouais. Ça.
C'est déjà un sacré rêve. Quand on sait la difficulté que c'est d'être écrivain et d'écrire, c'est déjà un sacré rêve.
C'est vrai.
Quelle place occupe la natation aujourd'hui dans ta vie? Parce que j'en ai appris plus sur toi en lisant le livre, en allant regarder un peu sur Internet. Est-ce que tu envisages de continuer à nager? J'imagine que oui, vu l'importance que ça a pour toi. Mais est-ce que tu penses le remettre en point de vue professionnel ou ça restera quelque passion à côté?
Alors non, je pense que ça sera jamais vraiment professionnel. Déjà, en handisport, c'est quelque chose qui est très rare d'être professionnel. S'il y a un ou deux athlètes en France, et encore. Donc voilà, c'est quelque chose qui est juste un rêve, on va dire.
Ouais.
Et puis en plus, j'ai trop souvent laissé tomber le plaisir au profit des résultats dans la natation. Donc même en ce moment, voilà, le plaisir est pas vraiment là. Et on va dire, je m'entête à essayer de le retrouver, mais c'est pas toujours simple, donc donc moi c'est le plaisir avant tout maintenant, et le reste on verra.
Je comprends totalement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Très bonne question. De finir mes études, parce que je serai diplômée normalement en juin.
Ah ouais.
C'est-à-dire bientôt, après 6 ans d'études à l'université, voilà, ça sera une belle parenthèse qui sera finie. Sinon, peut-être publié en maison d'édition pour le 3e ou 4e livre.
C'est ce qu'on te souhaite. Que ça arrive pour tous les prochains livres que tu envoies, qu'il n'y ait même pas de délai d'attente. Que la personne qui le trouve, le reçoive dans ses mains, se dise « Ah, c'est exactement ce que je cherchais.
» Si seulement.
On a droit d'y croire.
Oui, on peut toujours.
On a droit d'y croire. C'est un peu comme... Je sais plus, bon, je vais pas donner cet exemple-là, parce qu'après, on va penser que je passe ma vie sur les trucs de rencontres, etc. Mais, ça m'est arrivé une fois, de schématiser, de visualiser, et je vous encourage à le faire, les personnes qui nous écoutent, la visualisation, ça marche. De visualiser quelque chose qu'on veut obtenir, et ça arrive exactement ce que vous avez demandé. Donc, faites attention à ce que vous visualisez, parce que l'univers vous écoute, et parfois vous écoute à la lettre. Donc si effectivement dans les maisons d'édition dans le cas tu vas envoyer ton ouvrage, il y a quelqu'un qui visualise exactement ce que tu écris, bah c'est ce qu'il se dira en le découvrant. C'est exactement ce que je cherchais. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Laura.
J'espère.
Merci d'avoir été là ce soir, merci d'avoir pris du temps pour nous partager ton expérience, et à très vite.
Merci à toi pour l'invitation. À bientôt.
En attendant le prochain épisode du podcast La Voix des mots, tu peux suivre les backstage de ma vie d'autrice sur mon compte Instagram Mauna Poésie. ou en rejoignant ma newsletter, L'Essentiel. J'y partage mes illustrations et d'autres contenus et actualités liées à ma vie d'autrice et de lectrice. Si tu as une question, n'hésite surtout pas. Au plaisir d'échanger peut-être avec toi. À très vite !